Laudetur Jesus Christus.
Troisième jour de conférence de l'ONU sur la question palestinienne à New York. Hier soir, 125 États ont martelé la solution à deux États. Une perspective politique qui fait encore sens selon les observateurs, analyse à suivre. La livraison de l'aide humanitaire à Gaza reste le point le plus critique. Plusieurs capitales européennes, dont Madrid et Berlin, vont envoyer matériel médical et vivres aux côtés des pays arabes. Un cessez-le-feu fragile entre le Cambodge et la Thaïlande qui s'accusent mutuellement de violations. Nous irons à Bangkok avant de partir pour le nord-est de la RDC, endeuillé par le massacre dans une église catholique ce week-end. Témoignage du vicaire de la paroisse ciblée. Et puis avant leur rencontre avec Léon XIV ce matin, focus dans notre dossier sur les missionnaires du numérique en jubilé à Rome. Comment concilier présence virtuelle et foi réelle? Nous le verrons avec un influenceur catholique du Cameroun.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Le Hamas doit abandonner le contrôle de la bande de Gaza et rendre les armes. Plaidoyer hier soir à New York du premier ministre palestinien à la tribune de l'ONU. La solution à deux États, israéliens et palestiniens, seul chemin pour parvenir à la paix au Proche-Orient. On rappelait à cette occasion de nombreux États membres de l'ONU lors de cette conférence internationale. Elle est co-organisée jusqu'à demain par la France et l'Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État du Saint-Siège insistait, lui, encore hier à Rome sur cet horizon politique, l'un à côté de l'autre, dans l'autonomie mais aussi dans la coopération et la sécurité, affirme le cardinal Parolin. Un avis partagé par le chercheur Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons d'espérer, écoutons-le.
Je suis assez optimiste, pas parce que j'ai envie de l'être, mais je crois beaucoup que les fondamentaux demeurent sains. Je veux dire par là, et par un faux paradoxe, que les deux populations, pour l'essentiel, la grande majorité des Juifs israéliens et les Palestiniens des territoires palestiniens ne veulent pas vivre dans le même État. Ça signifie qu'à terme, lorsque vous dites aux Israéliens qu'il faut une séparation frontalière, ils sont d'accord. Alors attention, le tout est de savoir où, et surtout le tout est de savoir comment. Parce que quand vous dites aux Israéliens État palestinien, eux évidemment, ils voient un État à leur image, c'est-à-dire un État puissant et doté, comme la quasi-totalité des États dans le monde, des prérogatives sécuritaires et militaires. Bon, mais ça, aujourd'hui, vous ne trouverez pas un Israélien, même d'extrême-gauche, après le 7 octobre, pour accepter ça. En revanche, si vous dites aux Israéliens une large autonomie, moi, de ce que je peux en savoir, de ce que je peux écouter depuis maintenant de très très longues années, et encore récemment, vous trouverez vraisemblablement, peut-être pas aujourd'hui, mais à moyen terme, une majorité favorable à ça.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Sur le terrain, la situation humanitaire se dégrade chaque jour un peu plus. Après 22 mois de guerre, le président américain déclare voir à Gaza des signes d'une vraie famine, annonçant la mise en place prochaine de centres de distribution alimentaire. Depuis samedi, 120 camions ont pu pénétrer l'enclave. Il en faudrait 500 par jour, selon l'ONU. Mais le largage de vivres a repris par des avions jordaniens, émiratis ou espagnols, tandis que l'Allemagne prévoit l'organisation d'un pont aérien pour acheminer des denrées alimentaires mais aussi des fournitures médicales. En effet, sur place, les services de santé signalent désormais au quotidien le décès d'enfants et d'adultes, faute de nourriture, d'eau et de lait pour bébés. 143, dont 88 enfants, selon les derniers bilans parus lundi à la mi-journée. À Jérusalem, Valérie Ferron.
Malgré ces annonces du week-end sur des pauses humanitaires journalières pour laisser entrer l'aide internationale, Israël poursuit ses bombardements qui ont fait 77 morts hier en journée, dont une trentaine parmi les milliers de personnes attendant près des sites de distribution de colis gérés par la société privée créée par Israël et les États-Unis. La famine continue de s'intensifier, touchant de plein fouet en premier lieu des centaines de milliers de bébés et d'enfants, comme Amir, 4 ans, et son frère Youssef, 6 ans, dont les petits corps squelettiques sont incapables de faire le moindre mouvement. Témoignage de leur maman.
Youssef, avant la guerre, pesait 14 kilos. Aujourd'hui, à peine 9. Je lui donne un peu de pain, de thé, mais il refuse de se nourrir et crie tout le temps. Et si je le force, il vomit tout.
Les quelques hôpitaux fonctionnant encore sont désormais submergés de cas de malnutrition aiguë, en plus des blessés. Les services médicaux ont par ailleurs signalé hier 1200 nouveaux cas de malades ayant perdu la vision en raison du manque de médicaments et du manque de nourriture. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
En Syrie, les catholiques commémorent ce mardi les 12 ans de la disparition du père jésuite Paolo Dall'Olio. Pour la première fois dans la Syrie post-Assad, des célébrations publiques honorant la mémoire du jésuite italien auront lieu. Au monastère de Marmoussa, une messe est présidée à 10h ce matin par Mgr Jacques Mourad, l'archevêque syriaque d'Homs, en présence du nonce à Damas, le cardinal Mario Zenari. Trois jours après le massacre de Komanda en République démocratique du Congo, le pape exprime sa consternation et son affliction face à cette attaque perpétrée dans une église par les miliciens des ADF. Ils ont tué 43 fidèles dans la nuit de samedi à dimanche dernier. 24 d'entre eux ont déjà pu être enterrés ce lundi sur le terrain de la paroisse. Une messe a été célébrée par le vicaire. Le père Dieudonné Liringa, encore sous le choc, ne parvient pas à comprendre ce déferlement de violence.
C'est aujourd'hui qu'on a enterré les corps de nos frères, de nos sœurs, de nos mamans, de nos papas. C'est aujourd'hui seulement. Il fallait une messe pour les accompagner. Il fallait creuser les trous pour les mettre à l'intérieur. Il y a des mamans, des papas, des jeunes, des enfants. Pourquoi ils sont venus s'attaquer aux jeunes? Qui leur avait formé qu'il y avait ces gens-là? Nous-mêmes ne comprenons pas. Le pape comme pasteur doit compatir avec nous. Il doit nous soutenir dans ces moments difficiles et nous espérons que cette parole du pape va encore nous appuyer dans nos pastorales à aller en avant afin de retrouver un jour la paix que nous cherchons et le développement intégral de la personne humaine.
Des propos recueillis par Antonella Palermo de la rédaction italienne de Radio Vatican. Au Cameroun, le principal opposant politique au régime de Paul Biya conteste sa disqualification des listes de candidats retenus pour la présidentielle du 12 octobre prochain. Maurice Kamto a donc déposé un recours devant le Conseil constitutionnel à l'instar de 22 autres candidats. Restons en Afrique centrale où les actes de pillage et de vandalisme se multiplient en Angola. La capitale Luanda s'est fait le théâtre ce lundi de heurts dans des manifestations contre notamment la hausse des prix du carburant. Le pays est le deuxième producteur de pétrole africain, juste derrière le Nigeria. Après 5 jours d'affrontements, la Thaïlande et le Cambodge sont parvenus à un cessez-le-feu inconditionnel censé entrer en vigueur cette nuit. Mais l'armée thaïlandaise accuse déjà les troupes cambodgiennes d'avoir violé ce cessez-le-feu. Si l'annonce a globalement été bien accueillie par les Thaïlandais, des doutes persistent quant à sa réelle application sur le terrain. À Bangkok, Valentin Sébron.
Un soulagement teinté de prudence, c'est le sentiment qui domine en Thaïlande après l'annonce du cessez-le-feu négocié avec le Cambodge, obtenu grâce à la médiation de la Malaisie. Pendant 5 jours, les combats à l'artillerie lourde, bombardements et frappes aériennes le long de la frontière disputée ont plongé la population dans l'inquiétude. L'arrêt des hostilités offre donc un répit bienvenu, même si les Thaïlandais restent prudents, souvent même sceptiques sur l'application de la trêve sur le terrain. Peu après l'annonce, l'armée thaïlandaise a d'ailleurs demandé aux civils réfugiés de rester dans les abris en attendant de nouvelles consignes officielles. Le climat nationaliste alimente aussi les doutes. Beaucoup ne croient pas que le Cambodge respectera la trêve. Certains accusent déjà le premier ministre par intérim Pumtamon Ichayachai d'avoir accepté un cessez-le-feu sans condition. Sur les réseaux sociaux, les ultranationalistes lui reprochent d'avoir serré la main de son homologue cambodgien. Une main, disent-ils, tachée du sang des civils thaïlandais tués dans les affrontements.
Valentin Sébron, notre correspondant en Thaïlande. Le cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, lui, se voit conditionné à un délai de 10 ou 12 jours imposé par le président américain. Aux côtés du premier ministre britannique qu'il a rejoint en Écosse, Donald Trump a haussé le ton hier face à Vladimir Poutine. Dans le cas contraire, il envisage des sanctions américaines contre les pays achetant des produits russes. Le président ukrainien salue la détermination et la position claire de son homologue américain. Dans l'actualité, Vatican, le pape encourage les universités catholiques, réunies actuellement en Assemblée Générale au Mexique. Dans son message, Léon XIV les exhorte à être des itinéraires de l'esprit vers Dieu, à contre-courant du chant des sirènes de l'époque. Le pape qui poursuit ses audiences avec les jeunes dans le cadre de cette semaine jubilaire leur étant consacrée. Après des Péruviens, hier, ce matin, il doit recevoir un groupe de 800 catéchumènes et néophytes français au Vatican, avant de se rendre en la basilique Saint-Pierre pour s'adresser aux influenceurs et missionnaires numériques au terme de leur messe jubilaire présidée à 10h par le cardinal philippin Luis Antonio Tagle. Je vous le disais à l'instant, depuis hier à Rome, plus d'un millier d'influenceurs catholiques participent au jubilé qui leur est consacré et qui culminera ce matin avec la messe et la rencontre avec le pape. Pendant deux jours, ces influenceurs du monde entier débattent sur leur mission dans le monde virtuel. La rencontre physique est en effet importante et constitue de plus en plus un objectif pour la plupart d'entre eux, afin de se détacher des algorithmes, de privilégier des rencontres authentiques. Dans un monde virtuel où tout se croise, le meilleur comme le pire, ils entendent diffuser un message d'espérance ancré dans l'évangile. Leurs publications, photos, vidéos sont suivies par des millions de personnes, d'où l'intérêt de ce jubilé des influenceurs catholiques afin d'échanger, d'apprendre à naviguer dans ces environnements nouveaux pour l'Église. C'est de cette prise de conscience dont nous parle le père Simon Pierre, influenceur camerounais, qui participe donc à ce premier jubilé de l'histoire de l'Église consacré à des influenceurs.
Aujourd'hui, on se qualifie comme évangélisateur. Il faut communiquer le Seigneur aux autres. Il ne faut pas seulement rester figé dans les smartphones, connecté seulement aux smartphones. Il faut quitter alors du virtuel pour le physique. Tout le monde, nous venons de différents continents. Il y a ceux qui viennent de l'Asie, ceux qui viennent de l'Afrique, ceux qui sont de l'Europe. Donc, les influenceurs catholiques, nous sommes partis du virtuel pour le physique. Et c'est un grand rendez-vous, un rendez-vous digital.
C'est ensemble vers... le physique, c'est votre travail au quotidien.
Exactement.
Donc il faut bien avoir conscience de quelle est la force et en même temps la limite des
Exactement.
Réseaux sociaux.
Aujourd'hui, parlant de force, le communicant aujourd'hui doit donner le Christ aux autres, donner la bonne odeur. Il doit communiquer le Christ. Nous sommes donc en un mot, celle de la terre. On communique aux uns aux autres. On devient tout simplement comme le Christ l'avait dit à Pierre, ne crains pas, car désormais ce sont les hommes que tu prendras. Et on prendra le monde où ? On prendra les internautes où ? Dans le digital, dans le web, parce que nous pêchons les uns et les autres dans la grande communauté mondiale où ils sont campés, les jeunes, les vieux, et ainsi de suite. Ils sont tous dans le monde et nous sommes des pêcheurs d'hommes dans le digital.
Et vous êtes sur les réseaux sociaux depuis combien de temps ?
Depuis ma première année de philosophie.
Et vous êtes suivi par combien de personnes ?
43 000.
Est-ce qu'on sent une responsabilité ?
La responsabilité est grande, parce que ce qu'on dit est écouté. Il faut donc faire attention si ce qui est annoncé, sur ce qui est véhiculé. Parce que le plus souvent, lorsque nous retransmettons les messes en direct, nous savons que dans l'esprit, nous avons 43 000 personnes qui nous regardent. Alors la retransmission doit être belle, priante et méditative.
43 000 personnes, et on sait tous que les réseaux sociaux, c'est pas une église virtuelle.
Exactement.
Et on en arrive à la rencontre physique. Mais chez vous, au Cameroun, dans votre diocèse,
oui.
Comment concrétisez-vous cette rencontre physique ?
Bah, écoutez, nous avons des rencontres. Nous avons d'abord un groupe WhatsApp, CNC Kato, où nous fixons des moments de rencontre. Nous partons de nos diocèses et du virtuel pour se retrouver nettement comme ce jubilé. Nous avons des thèmes sur lesquels nous débattons, et ainsi de suite, comment mieux évangéliser, comment mieux partager les informations des diocèses, notamment. Pourquoi ? Parce que si moi, par exemple, je suis du diocèse de Bolova et que je publie une information qui est capitale et importante, vous qui êtes du diocèse de Yaoundé, bien de Bathory, bien de Bertois, et que l'information est bonne, nous sommes appelés, vous êtes appelés à partager pour que non seulement vos internautes puissent lire et entrer en phase avec l'information, mais aussi pour que tout le monde entier puisse être connecté.
Le monde numérique est vaste. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois d'être une petite goutte dans l'océan ? Comment fait-elle cette petite goutte pour trouver sa place ?
Pour trouver sa place, il faut mettre de la qualité. J'ai reçu un WhatsApp d'un internaute qui disait hier « Pourriez-vous organiser de temps à autre des retransmissions en direct de ces activités quotidiennes ? Par exemple, aime-t-il la lecture ? Quels sont ses repas pratiques ? Pratique-t-il un sport ? Ces petits détails peuvent renforcer le lien entre le pasteur et ses fidèles.
Ce qu'on vous demande là,
oui,
c'est de mettre l'église au milieu du village.
Oui, de mettre l'église qui n'est pas vue, c'est-à-dire de mettre le village qui n'est pas vu dans le monde. Ils veulent que nous puissions descendre, comme le Christ descendait dans les villages, rencontrer les uns et les autres, filmer le curé au village, comment est-ce qu'il vit, il fait comment pour vivre, il monte sur la moto, dans la pirogue pour aller évangéliser. Voilà les images qu'ils veulent. Alors, pour ne pas y avoir une goutte d'eau, il faut tout simplement faire ce que l'on fait avec le cœur.
Interrogé par Jean-Charles Puzzolu, le père Simon Pierre, plus connu sous le nom de Walker le Grand sur les réseaux sociaux, influenceur camerounais, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Rappelons que 1100 missionnaires numériques catholiques prennent part à ce jubilé. C'est lundi et mardi 28 et 29 juillet au Vatican.
Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. L'actualité vue de Rome revient tout à l'heure dès 13h, se prolonge sur vaticannews.va. Excellente journée.